Chapitre 52. Installé dans sa voiture garée dans le parking de Garrison Bight, Bosch surveillait les maisons flottantes plongées dans le noir. Au-dessus de lui, la lune était pleine et projetait une ligne de reflets jaunes sur l'eau, tel un chemin conduisant droit à la maison aux Smiles et Pirates sur le toit. L'une après l'autre, il vit les lumières s'éteindre dans ses demeures, la dernière à le faire étant celle où habitait Davy Byrne. Il regarda et attendit encore une heure, le bourbon qu'il avait descendu plus tôt lui remontant, tel un incendie dans la gorge. Il reprit son plan avec tous les risques qu'il comportait, et comprit que d'une manière ou d'une autre, justice serait rendue avant l'aube pour Gallagher, son épouse et leurs enfants. Pour finir, à 3 heures du matin, il descendit de sa voiture et gagna la passerelle conduisant aux maisons flottantes. Il portait des vêtements aussi sombres que le ciel, avait les mains gantées et s'était muni d'un tournevis acheté dans un drugstore CVS de Front Street, en face de l'hôtel. La passerelle était glissante de toute l'humidité causée par la chute de la température nocturne. Il s'agrippa à la rambarde et la descendit lentement et prudemment, conscient que le moindre faux pas lui expédierait une explosion de douleur dans le genou. Pour l'heure, il s'en débrouillait avec une nouvelle dose d'analgésique. Dès qu'il se trouva sur la jetée en béton, il s'attendit à être découvert et illuminé par les systèmes d'éclairage à détection de mouvement installés sur les maisons. Mais rien ne s'allumant, il se dit que les faibles oscillations auxquelles celles-ci étaient soumises, ayant dû les déclencher constamment, on avait fini par bannir le recours à ces mesures de sécurité de base. Parvenu à l'avant-dernière maison, il quitta la passerelle et se porta sur le pont avant sans hésiter. Il s'y arrêta, attendit, écouta pour déterminer si son arrivée avait été remarquée. Rien ne se produisant, il gagna le pont latéral conduisant à l'arrière de la maison. Il avait apporté son tournevis afin de faire sauter la serrure de la porte coulissante du pont arrière et d'ainsi pouvoir entrer, mais s'aperçut qu'elle était ouverte sur une bonne trentaine de centimètres, seule une porte moustiquaire lui en barrant l'accès. Cette dernière était fermée à clé. Mais il n'eut aucun mal à faire un trou dans le grillage avec son tournevis, à l'agrandir suffisamment pour y passer la main, déverrouiller la porte et très précautionneusement la faire coulisser sans un bruit. Il se glissa à l'intérieur. Il quittait la lumière du clair de lune. Il se retrouva dans le noir le plus profond et attendit quelques instants que ses yeux accommodent. Alors, il vit une télé à grand écran plat attachée à un mur. Un canapé adossé à celui d'en face et une table basse posée devant. Au-delà de l'endroit où il se tenait, il aperçut une salle à manger et une fenêtre donnant sur une cuisine, le rougeoiement de la pendule numérique d'un four micro-ondes l'informant qu'il était maintenant 3h10. Sur sa droite, il repéra encore la forme d'un escalier conduisant au premier. Il allait faire un pas vers la première marche, mais s'immobilisa en entendant une voix dans son dos. « On ne bouge plus !» Il se figea. Une lumière apparut derrière lui. Il leva les mains à la hauteur de ses épaules, se mit en devoir de pivoter lentement, le tournevis glissant aussitôt dans sa manche. Un homme était assis dans un fauteuil rembourré dans le coin de la pièce juste à côté de la porte coulissante. Bosch était passé devant lui dans le noir en entrant. L'homme lui braquait une arme sur la poitrine. C'était Finbar McShane. Bosch le reconnut sans mal d'après les photos de la vie de recherche qu'il avait dans sa poche revolver. Il arborait maintenant une grosse barbe qui avait viré au gris et un crâne rasé au bronzage prononcé après tous les jours qu'il avait passés en haute mer à bord du Calamity Jane. Il l'attendait dans le noir, c'était évident. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Qui je suis n'a aucune importance. Qui vous a dit que j'allais venir ?»« lui envoya Bosch en espérant que ce ne soit pas Tommy le barman. Personne n'a eu à me le dire, lui rétorqua McShane. Je vous ai vu là-bas aujourd'hui à essayer d'avoir l'air d'un touriste dans des habits de flic, parce que les touristes et les flics, moi, je connais. Je ne suis pas flic. Plus maintenant. Et ça veut dire quoi, bordel? Ça veut dire que c'est terminé pour vous. Qu'il y a d'autres flics et qu'ils savent que je suis ici, et qu'ils vont venir. Vous êtes foutu, McShane. Que Bosch l'ait appelé par son vrai nom, alluma une brève lueur d'inquiétude dans le regard de McShane. Mais elle disparut rapidement et céda la place à la confiance de celui qui tient une arme et domine la situation. « Tournez-vous. Complètement. » Bosch portait un jean noir et une chemise habillée bordeaux. Il n'avait pas prévu de travailler sous le couvert de la nuit lorsqu'il avait préparé sa valise. Il se retourna complètement, gardant les mains en l'air pour bien montrer qu'il n'avait pas d'armes. Enfin, il s'immobilisa. Enfin, ils se regardèrent à nouveau. « Voyons les chevilles, » reprit McShane. Bosch acquiesça d'un signe de tête. McShane jouait le coup intelligemment en ne s'approchant pas trop de lui au cas où celui-ci aurait caché une arme. Il se baissa, tira sur ses jambes de pantalon en veillant à ce que son tournevis ne tombe pas de sa manche et lui fit constater qu'il ne portait pas de holster de cheville. « Pas d'arme ?» conclut McShane. « On vient pour me tuer et on n'a pas d'arme. Je ne suis pas venu vous tuer.
Pourquoi faire, alors? Pourquoi êtes-vous ici?
Je veux vous l'entendre dire.
M'entendre dire quoi, espèce d'enfoiré? Et arrête de me parler à coups de devinette.
Que tu as tué la famille Gallagher.
D'où Jésus? Tu es de Los Angeles.
Eh bien, t'as fait un sacré bout de chemin pour rien, le vieux. Tout ça pour terminer au bout d'une chaîne d'encre par 12 mètres de fond? Parce que c'est ça qui est arrivé à Henry Jordan et à sa femme. Tu les as ligotés avec des chaînes et les as jetés à l'eau. Et Dan Cassidy, lui aussi est au fond de l'océan ? Lui demanda Bosch en voyant la surprise sur le visage de McShane.
Non, parce que, comme je te l'ai dit, il y a des gens qui savent tout sur toi. Et ils arrivent. Cette fois-ci, tu ne t'en sortiras pas.
Ah ouais, c'est ce que tu crois.
C'est ce que je sais. Alors tu as le choix. Ou tu me dis pour les Gallagher et on rentre à Los Angeles, ou tu tentes de filer tout de suite.
McShane éclata de rire.
Alors là, tu parles d'un dilemme.
Je doute fort que tu ailles beaucoup plus loin que Marathon, reprit Bosch.
Ah bon? Ça, t'en as une sacrée paire, le vieux. Je te l'accorde. Mais j'ai aussi quelque chose à te dire. Pas question que je retourne là-bas. Et en plus, qu'est-ce qui te fait croire que j'essaierai de filer en voiture?
Parce qu'avant de venir ici, j'ai visité ton bateau, le Calamity Jane, c'est ça? Il ne risque pas d'aller loin avec de l'eau dans ses réservoirs de carburant.
Vaudrait mieux que tu bluffes, espèce de fumier.
Tu pourrais aussi prendre un avion, mais c'est plutôt facile à tracer, ça.
Non, l'Overseas Highway est la seule vraie possibilité qui te reste, et ça fait une trotte, ils te gauleront avant même que t'arrives sur le continent.
Parce que t'as tout prévu, c'est ça?
Bosch ne répondit pas. Il se contenta de regarder fixement l'arme braquée sur lui. Il était prêt, prêt pour la fin.
McShane se leva, l'arme toujours braquée sur lui.
Et donc, tu portes un micro? On t'a envoyé ici pour récolter mes aveux? Ouf ta chemise, connard!
Bosch baissa la main droite et commença à la déboutonner.
Non, pas de micro, dit-il.
Il n'y a que toi et moi, et je veux t'entendre le dire. Après, tu feras ce qu'il faut.
McShane s'approcha plus près. Je vais te donner ce que tu veux, le vieux. Je vais tout te dire, mais ce seront les derniers mots que tu entendras jamais.
Dormait-il?
Quoi?
Emma et Stephen Junior, les enfants. Est-ce qu'ils dormaient quand tu les as tués?
Où savait-il ce qui les attendait ?
Parce que ce serait plus supportable pour toi, qu'ils aient été en train de dormir, qu'ils n'aient pas su.
Ils dormaient ?
Non, ils étaient à genoux, et ils savaient ce qui allait arriver, exactement comme leurs parents.
Qu'est-ce que tu dis de ça ? McShane avait les yeux qui brillaient à l'évocation de ses souvenirs, et dans ses pupilles noires, Bosch découvrit le vide de ceux qui n'ont plus la moindre humanité. Une rage sourde montant en lui alors qu'il se rappelait les photos d'Emma et de Stéphane Junior qu'il avait jadis portées sur lui. Du plus profond de son cœur lui vint un cri primal pour que justice soit faite. Semblant le sentir, McShane se rua sur lui et lui colla le canon de son arme sur la figure.
« Retourne-toi ! Contre le mur, bordel !»
Bosch était prêt. Il baissa les mains, inclina les épaules vers la droite comme s'il s'apprêtait à se retourner, comme on le lui ordonnait. Mais soudain, il recula d'un demi-pas sur la gauche et laissa son tournevis glisser de sa manche dans sa main. Et McShane, enfin tout près de lui, il lança la main droite en avant pour attraper le flingue et en dévier le tir vers le haut. Puis de la gauche, il lui enfonça le tournevis dans les côtes. Son corps se tendant sous l'impact, McShane gronda. Sans cesser de le tenir contre lui, Bosch lui ressortit le tournevis de la poitrine et l'y replongea sauvagement à nouveau, cette fois en le faisant remonter vers le haut. Puis il se jeta sur McShane de tout son poids et le repoussa sur un mètre jusqu'à ce qu'il s'écrase contre le mur. Il l'immobilisa et en lui bloquant toujours la main avec laquelle il tenait son arme, il continua d'appuyer sur le tournevis et sentit du sang chaud lui courir sur les doigts. Penché sur McShane, il était maintenant assez près de lui pour sentir ses derniers souffles désespérés lui effleurer le visage. Il n'avait plus tué d'homme au corps à corps depuis la guerre du Vietnam, 50 ans plus tôt. Et il ne cessa pas de le regarder droit dans les yeux, alors qu'il sentait sa résistance et ses forces diminuer dans tout son corps et finir par refluer avec sa vie. La fermeté avec laquelle il tenait son arme venant à lui manquer, McShane la lâcha. Elle rebondit sur l'épaule de Bosch et tomba sur le sol avec un bruit métallique. Alors, il se mit à glisser le long du mur, une grande surprise dans les yeux. Bosch le laissa s'effondrer, s'affaler en position assise, le dos appuyé au mur et le tournevis toujours enfoncé dans la poitrine. Bientôt, son sang se répandit sur lui, jusqu'au sol. Bosch expédia au loin son arme d'un coup de pied, recula et regarda McShane saigner à mort et ses yeux se brouiller, puis se figer dans la contemplation du néant.